Bonjour Monseigneur Jean-Marc Mika.
Bonjour Anne-Rose.
Merci de nous rejoindre encore une fois cette semaine pour cet entretien hebdomadaire. On va faire un petit tour d'horizon de votre agenda, les événements passés, puis ceux qui approchent. Alors on va revenir d'abord sur la visite pastorale que vous avez vécue le week-end dernier dans l'ensemble paroissial du sud-est de Tarbes. J'emploie volontairement le mot ensemble paroissial puisque vous avez expliqué la semaine dernière à ce micro que c'est bientôt un mot que nous n'utiliserons pas. Et c'est d'ailleurs un des points qui a été longuement discuté avec les chrétiens que vous avez rencontrés. Alors, faut quand même redire que votre visite pastorale dans ce secteur, qui est un des anciens paroissiaux de Tarbes, est survenue une semaine après la diffusion de la lettre que vous avez adressée aux chrétiens de ce lieu. Donc, c'était le bon moment pour les rencontrer. Ils avaient beaucoup de choses à vous dire.
Et ça a été une rencontre vraiment très, très, très intéressante, très fraternelle, très profonde, très sérieuse, avec si je peux me permettre, de très bonnes questions qui ont donné lieu ensuite à des développements qui m'ont permis, de, quant à moi, déployer, expliquer le fond de ma pensée, de la vision qui peu à peu se met en place pour Tarbes bien sûr, mais aussi finalement pour l'ensemble du diocèse. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est de sentir que les gens, au fur et à mesure, étaient rassurés. La réception de la lettre, pour certains, est un petit peu une information nouvelle qui dit qu'il va y avoir des changements, qui dit la situation, qui dit que les choses ne pourront pas continuer exactement comme elles sont depuis plusieurs décennies. Et donc ça inquiète, comme d'habitude, comme c'est normal, comme toujours. Et bon. Mais l'échange a permis vraiment d'apaiser, de rassurer, de donner des éléments vraiment qui soutiennent l'espérance, la confiance, parce qu'on est là, parce que les gens sont là, parce que la vie est là, parce qu'il y a des ressources aussi, et une conscience qu'en effet... il faut aller de l'avant et on y va avec l'aide de Dieu et puis en se soutenant les uns les autres, mais sur un fond de confiance. C'est ça qui m'a touché.
Oui, il y avait pas de colère ou de mouvement de panique.
Non, pas du tout. Il y avait des demandes d'explicitation, de précision, des réactions qui confortaient d'ailleurs le diagnostic et la vision. Et voilà. Donc c'était vraiment, j'ai vécu cette rencontre qui a duré plus de 2h30. La visite pastorale a commencé par cela, avec tous les chrétiens des différentes composantes de cet ensemble paroissial. Engagés à un niveau ou à un autre dans leur communauté. Et donc, il y avait, 50, 60 personnes qui étaient là présentes, et avec des jeunes, des gens de toute sensibilité, génération. Et vraiment, ça a été un moment très fort de commencer cette visite par cet échange-là. Et ça m'a fait du bien à moi aussi par rapport au processus enclenché sur Tarbes. Et ça me met en confiance sur la suite de ce processus, justement. Je suis ressorti de là, moi aussi, très réconforté.
Alors, vous avez employé le mot diagnostic. Alors, moi qui ai observé ce temps d'échange avec les chrétiens engagés, là, dans le sud-est de Tarbes, donc, j'ai vraiment eu ce sentiment-là, précisément, que, la lettre que vous aviez envoyée une semaine auparavant était un peu comme un diagnostic posé, une sorte d'ordonnance aussi, en disant, il y a ce problème-là, puis il y a cette vision-là, et puis on va trouver une solution, et puis on va continuer à avancer. Finalement, comme si les gens avaient été rassurés par le fait que ce soit écrit, expliqué.
Oui, et puis surtout, ce qui est important, c'est que c'est pas simplement il y a une maladie, on formule un diagnostic et puis on trouve des solutions, mais il y a une lame de fond et un processus de fond qui est celui dans lequel le diocèse est engagé depuis finalement, avant que j'arrive, la réflexion qui s'est mise en place avec la centaine de groupes de différentes paroisses du diocèse pour réfléchir au début du processus du synode, et dont moi je suis arrivé, c'était la fin de cette étape-là du synode. Il y a eu une journée en mai 23 de tout le diocèse qui marquait la fin de ce processus, comme je l'ai déjà expliqué. Et donc voilà, il y a un mouvement de fond qui est enclenché depuis 3 ans. grâce au synode sur la synodalité, mais voilà, dans le contexte propre à notre diocèse, il a pris des couleurs particulières. À cause de la situation propre à Tarbes, cette année, il prend encore pour Tarbes une couleur particulière, mais qui s'inscrit dans une démarche plus globale, qui est celle du diocèse, mais qui au fond est aussi celle de toute l'Église. Et donc, pas de panique, c'est pas simplement, encore une fois, je l'ai dit aussi, une concession à une crise présente.
Oui, c'est pas parce qu'on a plus de prêtres qu'on fait ce changement-là, c'est parce
d'abord,
que
on n'a pas plus de prêtres, il y a des prêtres, et puis voilà. Il y en aura, puisque j'ai été heureux de pouvoir dire... aux fidèles là, rencontrés le week-end dernier, qu'on a 6 séminaristes actuellement en formation, ou en discernement et formation. Et puis cette semaine, j'ai rencontré 2 de nos séminaristes, justement, qui commentaient, un m'a confié qu'entre eux, ils avaient commenté la lettre diffusée à Tarbes il y a 2 semaines maintenant.
Donc entre séminaristes.
Entre séminaristes, et ils m'ont remercié. Parce que quelque chose se passe et parce qu'une vision précise se manifeste dans laquelle ils peuvent se projeter comme futurs prêtres et qu'ils trouvent enthousiasmante. Alors ça m'a fait aussi extrêmement plaisir. Parce que le but, c'est pas les vases communicants, moins de prêtres, allez hop, on promeut les laïcs et puis le jour où il y a de nouveau des prêtres, on demande aux laïcs finalement de revenir à la normale. Ben non, la normale, c'est qu'il y a et les uns et les autres ensemble et que plus notre Église sera tout entière ce qu'elle doit être et tout entière missionnaire avec l'engagement des uns et des autres, plus elle sera appelante pour toutes les vocations dont l'Église catholique a besoin pour être l'Église du Christ. Voilà. Et je suis absolument convaincu de cela depuis des années, des années, des années. Et je le vérifie à travers les propos des uns et des autres aujourd'hui.
C'est très important ce que vous dites, Mgr Mika, parce que ça explique un petit peu aussi aux personnes qui peuvent être inquiètes, soucieuses de l'avenir, et on peut le comprendre, que tous ces changements d'organisation que vous nous expliquez depuis quelques semaines maintenant, ce n'est pas un coup de sparadrap sur une plaie qui saigne.
Et il ne s'agit pas d'organiser l'Église sans prêtres, pas plus que s'il y a beaucoup de prêtres, d'organiser l'Église seulement avec eux. Ce n'est pas ça du tout, du tout, du tout. J'ai consacré 25 ans de ma vie de prêtre au service des prêtres, justement, et de leur formation, de leur accompagnement. Et j'aime les prêtres, je veux qu'il y ait des prêtres, et il n'est pas question d'imaginer l'Église sans eux. Mais pas seul non plus. Voilà, c'est pas acceptable dans l'Église du Christ. L'Église du Christ, c'est le peuple de Dieu, tout entier. Peuple sacerdotal, voilà, c'est un grand acquis de la théologie de l'Église, et pas seulement catholique, mais aussi catholique, et donc, ben voilà, c'est ça qui se déploie. Alors, évidemment, ne soyons pas naïfs, il nous faut toujours des petits coups d'aiguillon pour devenir vertueux. Alors, ben, l'aiguillon présent, c'est la crise des vocations, mais pour moi, en faisant une lecture spirituelle de cette situation, eh bien, c'est permis par Dieu pour nous faire prendre conscience qu'il faut approfondir ce qu'est l'Église, qui est qui dans l'Église. Et voilà, et le Seigneur nous aide à travers les événements de l'histoire à devenir meilleur. Et j'ose penser que c'est ce qui se passe.
Alors, parmi les témoignages que j'ai pu recueillir pour Radio Présence, alors il y en a eu 2 dont je voudrais vous faire part aujourd'hui dans cet entretien. Le premier, c'est une jeune, 15-16 ans, qui a participé à cet échange, à ce long échange que vous avez eu samedi matin avec tous les chrétiens, et qui, elle, expliquait que, elle s'enquiquinait pas de toutes ces questions d'organisation, que pour elle, c'était l'Église, de toute façon, que le Seigneur était là, qu'il passe, et que au fond, eh bien, elle ne se sentait pas tellement concernée par ses soucis d'organisation, parce que pour elle, ça n'a pas d'implication, d'importance dans sa foi, dans sa relation à Dieu et dans sa relation aux chrétiens de la communauté, dans sa manière d'être membre d'une communauté chrétienne. Ça, c'est très intéressant. Les jeunes, en fait, ne se posent pas toutes ces questions.
Eh bien, pourtant, bravo, bravo, bravo. Merci de me partager cette réaction-là, que je trouve extrêmement saine. Et finalement, centré sur la foi et sur le Christ. C'est ce que je disais la semaine dernière à propos du départ des frères franciscains de l'ensemble des paroisses de Saint-Antoine, en disant, ben, eux s'en vont, mais le Christ reste. Oui. Et finalement, je vois bien à la réaction des paroissiens de cet ensemble que, bien sûr, ils sont tristes de voir partir les prêtres auxquels ils étaient attachés, les frères auxquels ils étaient attachés, mais sans affolement, parce que de toute façon, les frères en question les ont greffés au Christ, et que lui, il reste. Et donc, ben voilà, ce sera autrement, avec d'autres, mais pour l'essentiel, ce sera toujours avec le Seigneur, et donc tout est bien.
Alors, une deuxième réaction qui est complètement différente, alors là, d'un monsieur un peu plus âgé, voilà, qui est engagé aussi, vraiment impliqué dans la vie de la paroisse, qui lui rebondissait sur ce que vous avez expliqué à propos des catéchistes. Alors, pas les catéchistes qui font la catéchèse aux enfants le mercredi, mais les catéchistes comme ministres institués. Et il expliquait, lui, que, ben, effectivement, il comprenait vos explications, mais qu'il avait le souci que peut-être ce soit bien cadré, en disant attention pour que le catéchiste soit vraiment dans sa mission, que ça déborde pas et qu'on revienne pas peut-être dans des abus d'autorité, eh bien il faut que ce soit plus cadré. Là il y avait un petit souci, une compréhension mais un souci de vigilance.
Oui, oui, et c'est légitime, il a tout à fait raison et tout le monde a bien conscience de cela. Le pape François le Premier, quand il parle, pour le dénoncer, du cléricalisme dans l'Église, c'est un terme générique qui ne vise pas que les clercs, mais qui vise comme une tentation absolument tout le monde dès lors qu'on exerce une responsabilité, et que ce soit comme ministre ordonné, ministre institué, ou simplement laïque en responsabilité, ou religieux ou religieuse dans sa communauté ou dans sa paroisse, c'est une maladie de l'engagement, quel qu'il soit, et ouais, qui menace absolument tout le monde. C'est pas parce qu'on mettra un laïque à la place d'un prêtre que ça y est, il n'y aura plus de risque de cléricalisme. Non, c'est une maladie commune, générale. Il faut en effet que les choses soient cadrées, être attentif, vigilant. C'est pourquoi, pour ma part, je plaide vraiment pour que les responsabilités soient portées à plusieurs. Et que quand on est envoyé en mission quelque part, quelle que soit la nature de la mission, eh bien, on puisse être au minimum deux ou bien une équipe qui porte. Alors, il y a toujours un responsable, mais il y a un conseil, il y a une équipe avec. Mmh. Et puis, sur des mandats à durée déterminée que l'on remet, on n'est pas propriétaire d'une responsabilité à vie, etc. etc.
Ces ministères institués, vous serez particulièrement vigilant sur ces points-là?
Sur ces ministères institués. Mais alors là, c'est une vigilance qui est portée par l'ensemble de l'Église qui est en train d'élaborer des documents pour se donner des critères pour déterminer les personnes à qui on va adresser cet appel. Ensuite, pour déterminer la manière de les former avant de les instituer, lecteurs, acolytes et catéchistes, un terme ambigu pour nous, puisque c'est un terme qui nous vient de l'hémisphère sud, des pays de mission où le catéchiste est un laïc responsable de communauté, mais qui est formé, appelé et envoyé en mission pour un temps déterminé par son évêque. Bon, alors nous, on va découvrir ce ministère-là et on va s'y engager, comme c'est demandé dans l'Église universelle, mais avec la vigilance requise, comme normalement pour toutes les responsabilités que l'on confie à quiconque.
Alors si on regarde les choses avec un angle un peu plus spirituel, ce que je trouve intéressant, c'est que toute cette réflexion, ce travail se fait là avec tous ces échanges pendant le carême. Je trouve que c'est une manière assez intéressante de voir que notre diocèse vit son carême vraiment en s'appropriant ces questions, et puis ces questions aussi d'organisation, mais c'est plus que de l'organisation, c'est vraiment, au fond, on interroge notre cœur diocésain. Et je trouve que c'est assez intéressant de voir que ça survient pendant le carême.
Merci de faire cette remarque-là. En effet, c'est quelque chose à quoi je suis très sensible. Pour ma part, je me dis que je dis souvent, quand j'anime des retraites ou autrement, que la marche à la suite du Christ, son modèle, c'est la marche des Hébreux à travers le désert pendant l'Exode, à la suite de Moïse. Là, le Seigneur, pendant 40 ans, va façonner ses tribus disparates pour en faire un peuple. Il va façonner la foi de ce peuple, sa confiance en lui, et qui va être éprouvée sans arrêt, puis renouée. Il va sceller une alliance avec eux, etc. Notre marche de disciples, que ce soit personnellement ou que ce soit ecclésialement, elle a sa matrice dans cette expérience de l'Exode des Hébreux. Et le carême est tout à fait le temps de ce désert, de l'Exode, à travers le désert, en marche vers la Pâque. Bon, eh bien ça coïncide, si j'ose dire, et ça tombe bien, parce qu'en effet, il nous faut entrer dans cette spiritualité de l'Exode, faire confiance au Seigneur, qui donne la manne au jour le jour. Alors c'est pas très confortable, nous on aimerait avoir du stock, on aimerait avoir des de sécurité, on aimerait avoir des visions certaines, on aimerait avoir un GPS bien calé sur l'objectif, etc.
Oui, mais alors,
etc.
On pourrait pas laisser déployer notre espérance.
C'est pas comme ça dans la foi, c'est pas comme ça avec Dieu, et en effet, la vertu de foi et la vertu d'espérance, eh bien, elle mobilise autre chose. Et de gré ou de force, il faut qu'on entre dans cette spiritualité de l'Exode. Et c'est vrai pour notre Église aujourd'hui, c'est vrai pour notre diocèse aujourd'hui, mais l'avantage que nous avons sur les Hébreux, c'est qu'on sait comment ça finit, c'est-à-dire bien. On sait que le Christ est victorieux, on sait qu'un jour on mangera la Pâque avec lui et qu'on chantera Alléluia, le cœur léger. Voilà. Et donc c'est confiant qu'on met un pas après l'autre, on reçoit ce que le Seigneur nous donne. Il y a plein d'inconnus, il y a plein de choses, je ne sais pas encore qui je mettrai ici ou là l'année prochaine, je ne sais pas, je vois pas. Mais j'essaye de m'appliquer à moi-même ce que j'invite tout le monde à mettre en œuvre, c'est-à-dire l'espérance. La confiance, et voilà, et j'avance et je dors la nuit.
C'est très important, ça nous rassure. Ce vendredi, c'est le troisième vendredi de Carême, et depuis 2021, les évêques de France ont voulu que ce soit une journée mémoriale pour les victimes des abus au sein de l'Église. À quoi ça sert cette journée, Monseigneur Mika ?
Bien, comme son nom l'indique, à faire mémoire, et donc... à ne pas oublier ce qui a été enclenché depuis des années maintenant, ne pas oublier l'engagement qui a été pris, ne pas revenir à de vieux réflexes et de vieilles habitudes qui consistent à défendre à tout prix la réputation de l'institution avant de prendre soin des personnes. Donc ne pas oublier toutes les prises de conscience, souvent dans une émotion extrêmement forte, qui ont pu être vécues par des évêques qui change ceux qui ont vécu la commande du rapport de la SIAZ et la remise de ce rapport, eh bien, remplacés par d'autres qui n'ont pas vécu cette aventure-là. Et donc, même chose au niveau des fidèles, des communautés, des paroisses, la mise en place des cellules d'écoute, la mise en place des conventions signées avec les procureurs de la République et les diocèses. Tout cela ne vient pas de nulle part, et il faut se rappeler un certain moment fondateur de toute cette démarche, et toutes les personnes que ça concerne, que ça implique, qui sont impliquées dans toute cette démarche. Et donc voilà, ne pas oublier, faire mémoire et se le rappeler chaque année, que ben, notre corps, certes ressuscité et vivant, reste marqué par les clous de la croix, comme le corps du Christ glorieux, et que c'est comme ça. Et donc, même si ça fait mal, même si ça ne nous plaît pas, même si on aimerait tourner la page, même si on aimerait oublier, ben, ce n'est pas comme ça que ça se passe. La mémoire dans l'Église, elle reconnaît ce qui s'est passé, et elle regarde les choses avec le regard de la foi, le regard de Dieu, qui est un regard de vérité, un regard de justice, mais aussi un regard de vie plus forte que la mort.
Mais qu'est-ce que ça change pour les victimes ? Vous avez eu l'occasion plusieurs fois de nous dire que vous avez eu des échanges avec des victimes, vous avez eu l'occasion d'en rencontrer des victimes d'abus. Au fond, de voir que l'institution Église fait mémoire, organise cette journée mémorielle, met en place des choses pour que ça n'arrive plus, est-ce que ça change quelque chose pour elles ?
Ça renouvelle l'engagement qui a été pris à rencontre, de faire ce qu'il faut pour que lorsque malheureusement des faits similaires se reproduisent, eh bien l'Église tout de suite croit ceux qui les dénoncent, qu'elle s'engage à protéger les situations et les personnes pour que si quelqu'un est repéré ou identifié comme étant potentiellement dangereux, eh bien il ne soit plus mis en état de nuire à d'autres. Voilà, l'Église a pris cet engagement et elle le renouvelle à travers cette journée, chaque année, auprès des victimes.
Merci beaucoup, Monseigneur Mika. Ce week-end, vous serez à nouveau en visite pastorale. Vous allez dans les baronnies, cette fois-ci. Voilà, ça continue, mais c'est bientôt la fin. Je crois qu'il en reste 4 ou 5 visites.
Oui, c'est ça. Je terminerai par 4 jours dans le pays Toy au mois de mai. Et ça marquera la fin de cette belle étape.
Toujours autant d'enthousiasme ?
Ah, toujours, chaque fois. Je suis impressionné de constater que chaque visite est vraiment unique. Dans sa préparation, à travers les personnes rencontrées. Alors, il y a un esprit de famille dans notre beau diocèse, et en même temps, chaque lieu est différent et me permet, à travers ce que je suis amené à partager, à échanger, de dire, me semble-t-il, chaque fois quelque chose d'un petit peu nouveau, d'un petit peu différent. Et voilà, j'en suis très heureux.
Merci beaucoup, Monseigneur Mika. À la semaine prochaine.
Merci et très bonne semaine à tous.